What do you check, mon cher Christophe? C'est Olivier en régie, tu m'entends?
Je t'entends parfaitement, Olivier.
Ah ouais, Christophe, c'est une Vectrex?
Ouais, effectivement, c'est une Vectrex qui est à mes pieds.
C'est vraiment ma console de cœur, hein. Je l'avais lorsque j'étais petit. Tu peux pas savoir le nombre d'heures que j'ai passé sur son écran vectoriel, s'il vous plaît.
On peut dire que c'est un vecteur de plaisir, cette machine.
Ouais, t'en as pas marre, les jeux de mots, Christophe, franchement.
Oh, je voulais juste faire le point sur la situation, c'est tout.
C'est pas possible, on va perdre de l'audience à cause de ton humour.
Oh, ça va, et si on tirait une ligne sur le passé?
Bon, j'ai compris, je vais rester dans ma régie, je vais plus rien dire. Bonne émission.
Oli, ça va, te fâche pas, je rigolais, j'arrête si ça te console. Bonjour à tous. Déjà, le 5e épisode de On refait la pop, l'émission dédiée à la pop culture. Elle a bercé votre enfance et continue à vous faire rêver par ses musiques, ses films, ses jeux vidéo ou encore ses jouets. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager cette vidéo. Générique. Peut-être de l'une des consoles des plus fascinantes de l'histoire du jeu vidéo. Véritable innovation pour 1982, avec son écran intégré, ses graphismes 3D vectoriels et son look unique de borne d'arcade miniature. La Vectrex aura connu un véritable succès auprès des joueurs, malgré une vie particulièrement courte. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers fascinant de la Vectrex. C'est parti!
Salut, c'est Enrique. C'est parti pour un nouvel épisode de On refait la pop. Et surtout, Goldorak, go !
Ceci est la Vectrex. On pourrait presque dire qu'il s'agit de la DeLorean des consoles de jeux. Comme cette dernière, elle est née dans les années 80, a connu un succès immédiat, n'a été produite que quelques années et a malgré tout marqué toute une génération. Pour ma part, le premier contact avec la Vectrex aura été quelque peu traumatique. Mais commençons par l'histoire de la console, je vous raconte ma mésaventure juste après. Tout débute avec Jay Smith, le papa de la Vectrex. Fin des années 70, Jay travaille dans ses propres entreprises, Western Technologies et Smith Engineering. La compagnie est spécialisée dans la création d'outils pour permettre le développement de jeux vidéo. À l'époque, l'effervescence règne dans le monde du jeu vidéo. C'est l'âge d'or pour les bandes d'arcade, avec des jeux comme Space Invaders, Asteroid et Galaxian. Tout le monde veut pouvoir jouer aux jeux d'arcade dans le confort de son salon ou de sa chambre. C'est entre autres pour cela qu'Atari fait un carton avec sa console l'Atari 2600, qui permet de jouer à la maison. Mais Jay trouve qu'il y a une marge d'amélioration. Les consoles de l'époque doivent être branchées à une télévision, mais les familles qui ont la chance d'avoir une télévision n'en possèdent souvent qu'une seule. Du coup, difficile de faire plaisir à tout le monde. Une partie de jeu vidéo ou un film? Quel dilemme! Une manière élégante de résoudre le problème est de créer une console tout en un, munie de son propre écran. Et c'est ce que Jay va faire. Plus qu'inclure un simple écran, il va utiliser un écran à technologie vectorielle, ce qui permet l'affichage de points et de lignes parfaites. Cela offre la possibilité d'afficher des formes en 3D simples. En noir et blanc, certes, mais c'est malgré tout bluffant pour une époque où la majorité des jeux utilisaient la 2D. Le prototype de la console est là, mais il faut maintenant trouver une société qui désire vendre la Vectrex au plus grand nombre. Plusieurs distributeurs sont rencontrés, mais sans véritable succès. Kenner Toys, la compagnie qui a mis sur le marché les jouets Star Wars, Charlotte aux fraises, la pâte à modeler Play-Doh, le spirographe, montre de l'intérêt, mais finit par décliner l'offre. Krakauer, le président de GCE, General Consumer Electric, qui de passage dans les bureaux de Smith Engineering, apercevra le prototype de la Vectrex sur une table. Greg est conquis par cette console si particulière et en négocie la distribution à la condition que l'écran de 5 pouces du prototype passe à 9 pouces. En même pas 10 mois, CGE fait passer le prototype à sa version finale. La Vectrex est présentée au CES, le Consumer Electronics Show, de 1982 et commercialisée en novembre de la même année. Son prix de vente est fixé à 199 $. En calculant l'inflation, c'est l'équivalent de 499 € d'aujourd'hui. Succès phénoménal. Le public adore. Les premières ventes sont tellement bonnes que l'ensemble des stocks est complètement vendu. Le carton de la Vectrex attire l'attention de MB, Milton Bradley, entreprise spécialisée dans les jeux de plateau comme Hotel et HeroQuest. Il voit la console tout en un comme la clé ouvrant les portes du marché florissant des jeux vidéo. MB fait l'acquisition de CGE et de sa Vectrex. La console porte maintenant le logo MB, le management de l'entreprise se félicite. Début 1983, suite à la transaction, MB voit sa valeur boursière doubler par rapport à 1982. Mais tout le monde va rapidement déchanter. En 1983, c'est le crash mondial des jeux vidéo. Atari se casse littéralement la figure et entraîne le reste de l'industrie dans sa chute. Le marché se rétracte, les magasins possèdent des quantités astronomiques de consoles invendues et ne veulent plus entendre parler de jeux vidéo du tout. La Vectrex est entraînée dans ce chaos. MB se voit obligé de passer le prix de la console à 150 $ et puis ensuite à 100 $. L'entreprise perd 16,5 millions de dollars à cause de la console en question. Après cette année catastrophique, MB se voit contraint à fusionner avec Hasbro en 1984. La Vectrex est tuée et malgré le succès initial, la console n'a même pas vécu 2 ans. Comme quoi, même si on a un super produit, être dans le bon timing, c'est crucial. Ouh, remettons-nous de nos émotions avec un peu de musique. On écoutait quoi en 1982 ? Cause this is thriller, thriller night, and no one's gonna save you from the beast about to strike. You know it's thriller, thriller night, you're fighting. Ouais, je sais, c'est impressionnant. En 1982 apparaît Thriller, le nouvel album interprété par Michael Jackson et coproduit par Quincy Jones. Tout le monde connaît Michael et Quincy est considéré comme l'un des plus grands producteurs de musique au monde. Un mélange détonnant. L'album Thriller est un succès incontestable. Il reste 37 semaines au sommet du Billboard 200. Thriller devient rapidement l'album le plus vendu au monde, avec 32 millions d'exemplaires vendus en une seule année. À lui seul, l'album relance l'industrie de la musique qui était alors en perte de vitesse. En 2023, il reste toujours répertorié comme l'album le plus vendu par le livre Guinness des records. Plus de 70 millions d'exemplaires. Certaines sources parlent même de 100 millions d'unités. Thriller bat tous les records. Mais pas qu'au niveau des ventes. Entre autres, il reçoit 8 Grammy Awards en 1984 dans le genre pop, R&B et rock. C'est avec cet album que Michael Jackson devient l'icône incontestée de la musique pop. Michael passe sur toutes les radios, apparaît sur MTV, rencontre le président Ronald Reagan à la Maison Blanche. Il est partout. Le clip vidéo Thriller marque son époque pour de bon. La réalisation du clip demandera $500,000, soit largement plus $1 million d'aujourd'hui. Un véritable court-métrage d'horreur qui fera frissonner l'ensemble des fans. Quelques petites anecdotes juste pour vous. L'album devait initialement porter le titre Starlight. Mais comme vous le savez, il se nomme finalement Thriller, pour coller à l'ambiance horrifique voulue. Aussi, ceux qui sont attentifs peuvent remarquer une phrase insérée en début de clip vidéo. Il s'agit d'un message de Michael précisant qu'il ne valide en rien les croyances en l'occulte. C'était visiblement important pour lui de le préciser. Pour finir, d'après Quincy Jones, durant l'enregistrement de Thriller, une dame serait passée devant une surface vitrée du studio et aurait soulevé sa robe alors qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Par pudeur, Michael Jackson se serait caché derrière la table de mixage pour ne rien voir. Pauvre, pauvre Michael. Allez, retour à notre Vectrex. « La Vectrex est réellement une console à part. Évidemment, on pense tout de suite à son design tout en un et à son écran vectoriel, mais son processeur aussi est un morceau de choix. Le Motorola 6809, 68A09 pour être exact, est un des processeurs des plus puissants de la génération 8 bits. En réalité, on peut même dire que c'est un processeur mixant 8 et 16 bits. La Vectrex utilise le même processeur que des ordinateurs plus haut de gamme et des bornes d'arcade des années 80. En sachant que le matériel utilisé dans les bornes d'arcade, c'est souvent le top du top. Sa manette aussi, façon stick arcade, munie de 4 boutons. Il est même possible d'en brancher une seconde sur la console pour permettre à deux joueurs de partager de bons moments vidéo ludiques. Pour compenser le côté noir et blanc de l'écran de la Vectrex, les jeux sont fournis avec des overlays. Ce sont des feuilles en plastique translucide qui se positionnent sur l'écran de la console pour colorer certaines zones. Ce n'est pas une première, la Maniavox Odyssey proposait déjà des overlays à positionner sur l'écran de la télévision, mais c'était cool quand même. La Vectrex est aussi munie d'un processeur sonore à 3 voix simultanées, le AY38912 de son petit nom. Ce processeur est aussi utilisé sur l'Amstrad CPC ou le Spectrum. Il donne une tonalité très 80s à la console. C'est vraiment sympa. Bref, de belle qualité, mais cela n'en fait pas une machine parfaite pour autant. Entre autres, de nombreuses Vectrex sont touchées par un problème de bruit parasite. Lorsqu'on allume la console, imaginez jouer avec un en permanence. C'est épuisant. Le pire, c'est que la Vectrex émet ce son à la sortie de la boîte. Ce n'est pas réellement une défectuosité. C'est un choix d'ingénieur d'avoir placé l'amplificateur pour le haut-parleur directement sur la carte d'alimentation électrique, ce qui ouvrait les portes aux interférences électriques, d'où le son parasite. On va dire que ça fait partie du charme de la Vectrex. Et puis il existe une façon de supprimer ce bruit avec un composant et une ou deux soudures. À vous de voir si vous voulez la garder telle qu'elle, comme dans les années 80, ou si vous voulez modifier ça. Côté jeu, c'est pas si mal pour une console qui n'a même pas été vendue 2 ans. Il y a bien évidemment le jeu intégré à la console, Mindstorm. Le joueur dirige un vaisseau spatial et tire sur des ennemis divers et variés. Très sympa à jouer. Et c'était bluffant de voir un vaisseau en 3D survoler l'écran au démarrage de la partie et entre les stages. En tout, on peut dénombrer une bonne trentaine de jeux. Space Wars est le jeu le plus vendu en dehors de Mindstorm, inclus dans la console, évidemment. Space Wars est aussi un jeu de bataille spatiale. On était très conquête spatiale dans les 80s, qui peut même se jouer à deux. Dans les jeux connus, il y a Asteroids, Pole Position, Clean Sweep, qui est un clone de Pac-Man. La ludothèque de la Vectrex a pas mal de variétés. Après la mort commerciale de la console, certains développeurs ont continué à faire vivre la machine en fournissant de nouveaux jeux. Virzone de Mindsoft, par exemple, est un jeu mis en vente en 2023. On peut aussi trouver des cartouches multijeux pour la console avec quasiment tous les jeux de la Vectrex. Il est même possible de faire l'acquisition d'une cartouche avec un adaptateur de carte micro SD pour y déposer les copies des jeux que l'on désire essayer. Est-ce bien légal ? Passons. Avant de continuer à parler de la Vectrex, je vous propose un petit tour dans les cinés en 1982. Des films, il y en a eu des quantités en 1982. E.T. l'extraterrestre, Blade Runner, The Dark Crystal, Tron, mais c'est sur Conan le barbare que je vous propose de nous arrêter. Conan le barbare s'inspire des récits de Robert E. Howard. Il s'agit d'un film de 129 minutes dans lequel Arnold Schwarzenegger incarne un jeune barbare en quête de vengeance qui va se battre contre une secte d'adorateurs de serpents. Je vous pose le contexte du film. Le film commence par la phrase « Ce qui nous tue pas nous rend plus forts ». Je pense que c'est un bon résumé. Du muscle, des têtes coupées, des demoiselles peu habillées, les années 80 quoi. Un budget estimé à 20 millions de dollars, soit approximativement 60 millions d'euros en 2023, les chiffres donnent le tournis. Un serpent géant mécanique, des effets spéciaux à n'en plus finir, 200 personnes engagées pour la réalisation de 49 décors sur mesure, 8 modèles réduits dont certains atteignent 11 mètres carrés de surface et 1,20 mètre de hauteur. Un temple grandeur nature est érigé sur 50 mètres de long et 22 mètres de hauteur. La production déplace 15 000 mètres cubes de sable pour ériger trois collines. Ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'attirer l'attention d'environnementalistes qui exigent la remise en ordre du site après le tournage. Les acteurs aussi donnent de leur personne. Schwarzenegger se blesse dès le premier jour de tournage. Alors qu'il tourne une scène où il doit échapper à des chiens loups, l'un d'eux est particulièrement agressif et le fait tomber d'un rocher. Mais Schwarzy n'a pas fini d'en baver. Il est blessé au cou par un éclat de hache lors d'un des combats filmés. Vous voulez plus gore encore ? L'une des actrices, Sandal Bergman, s'est fait trancher l'index de la main droite lors d'un combat à l'épée. Rien que ça. Bon, c'est pas non plus comme si on avait besoin de nos doigts tous les jours. Les pauvres auront bien souffert. Je vous le disais, le budget attribué au film est de 20 millions d'euros. C'était beaucoup pour l'époque. Cependant, Conan le Barbare rapportera 120 millions de dollars et réalisera plus d'1,7 million d'entrées en France. C'est ce qu'on appelle un vrai succès commercial. Mais revenons-en à notre Vectrex. La Vectrex brillait aussi par ses accessoires originaux. Le Vectrex Light Pen, par exemple, un stylo qui permet directement de dessiner sur l'écran de la console. Le Light Pen permet aussi d'interagir avec un logiciel de musique, comme si l'écran de la Vectrex devenait tactile. De quoi définitivement révéler vos talents artistiques au reste du monde. La Vectrex peut aussi être munie du Vectrex 3D Imager. Ce sont des lunettes permettant de voir en 3D sur l'écran de la Vectrex. Lorsque l'on y pense, il faut finalement peu à un geek pour être heureux. Pour profiter d'une expérience de jeu unique en 3D, rien de plus simple. Il faut se munir d'une Vectrex, des lunettes 3D Imager, d'un jeu 3D spécialement compatible avec ces dernières, et l'histoire est faite. Les lunettes contiennent un disque qui tourne à toute vitesse. Le disque laisse passer une image pour l'œil gauche et puis une image pour l'œil droit, ce qui donne cette impression de profondeur et la magie opère. La Vectrex est définitivement une console innovante et différente. Si elle n'avait pas succombé au crash des jeux vidéo, elle aurait même connu une version numéro 2 avec de la couleur. Un début de prototype existe et utilise une seconde couche de phosphore sur l'écran, ce qui aurait permis à la Vectrex d'afficher différentes couleurs. Fin des années 80, Smith Engineering, la société de Jay Smith, a pensé à travailler sur une Vectrex portable, mais l'arrivée de la Game Boy de Nintendo a découragé l'entreprise de se lancer dans cette aventure. L'histoire de la Vectrex finira malgré tout avec beaucoup d'élégance. Après la faillite de GCE, Jay Smith récupère les droits intellectuels sur la Vectrex et ouvre régulièrement la porte à l'usage de ces technologies par des passionnés, à condition que ce ne soit pas dans un but purement lucratif. Cette console si particulière fait définitivement partie de la culture populaire. Aucun doute là-dessus. Elle apparaît même dans le film Android de 1982 et l'on peut aussi la voir dans la série Charles s'en charge en 1984, quelques mois après que la vente de la Vectrex soit arrêtée. Vectrex, c'est certain, on ne t'oubliera jamais. Ah oui, en début de vidéo, je vous avais dit qu'il y avait une histoire concernant ma première expérience avec cette console. Dans les années 80, j'étais fort Commodore 64 et Sega Master System. Je suis un peu passé à côté de la Vectrex à l'époque. C'est une console que j'ai appris à connaître par la suite. Je n'en avais jamais eu une en main. Il y a une bonne dizaine d'années, lors de la visite d'une boutique de jeux vidéo rétro, je vois une Vectrex dans une vitrine. Quelle chance, elle semble parfaite. La manette est là, il y a même la boîte. Je craque et j'appelle le vendeur pour en faire l'acquisition. Le monsieur ouvre la vitrine pour en extraire la console. Et là, je vois un filament de plastique fondu se former entre la Vectrex et le spot éclairant la vitrine. En réalité, l'ampoule installée dans la vitrine était une ampoule à incandescence qui était placée à deux doigts du dessus de la console de jeu. Elle avait abondamment chauffé et fait fondre le haut de la Vectrex. Il y avait un énorme trou sur le dessus de la pauvre console. J'étais horrifié. Impossible d'acheter la machine en l'état. J'ai dû décliner l'offre et j'ai finalement fait l'acquisition d'un exemplaire il y a quelques semaines seulement. Il m'aura fallu presque 41 ans pour finalement en avoir une. Nous voici arrivés à la fin du cinquième épisode de On refait la pop. Merci au studio Electric Dreams, à Underside et à tous ceux qui rendent possible cette émission. Et surtout, Merci à vous pour votre soutien bienveillant. N'hésitez pas à jeter un œil au précédent épisode dédié au Commodore 64, l'ordinateur le plus vendu au monde. Vous pourrez aussi y apprendre pourquoi cette machine est si importante à mes yeux. ORLP est disponible sur YouTube et Apple Podcast. Pour ceux qui désirent l'écouter, tout en jouant à la Super Nintendo. N'oubliez pas de liker, souscrire à la chaîne et partager cette vidéo. À bientôt. Quelques petites stats pour ceux qui aiment les chiffres. La Vectrex est considérée comme une console de seconde génération. Sur cette infographie, on peut voir ses concurrentes principales. L'Atari 2600, l'Atari 5200, la ColecoVision, le Videopac et l'Intellivision. En 1982, au démarrage de la Vectrex, toutes les autres consoles sont soit déjà bien installées sur le marché, soit commencent leur vie. On comprend la variété des machines possibles pour celui qui voulait jouer aux jeux vidéo. En termes de variété de l'offre, le marché était bien différent d'aujourd'hui. On voit aussi, suite au crash de 1983, que la majorité des consoles de seconde génération terminent rapidement leur commercialisation. La Vectrex n'est pas la seule à y avoir laissé des plumes. L'Atari 2600 a continué à être vendu, mais à quel prix pour Atari qui creusera sa tombe au fur et à mesure des années ? Mais c'est une autre histoire. Ici, on voit quelques chiffres sur les unités vendues. 40 ans sont passés et les sources ne sont pas toujours d'accord sur le nombre de ventes, mais en regroupant les informations, on obtient pratiquement 1,5 million d'unités vendues pour la Vectrex. Elle s'en sortait plutôt pas mal. Même si en comparaison des 30 millions d'Atari 2600 vendus et des 7 millions d'Intellivision, cela peut paraître très peu. Si l'on prend une perspective différente, que l'on tient compte de la durée de vie sur le marché et que l'on regarde combien d'exemplaires se sont vendus sur une période de 1 an, elle prend la 3e place du classement des consoles de seconde génération. Plutôt bien. C'était un peu les débuts de l'histoire pour les consoles et cette génération aura payé le prix fort d'une trop grande abondance de l'offre et d'une perte de confiance des acheteurs à cause de certains jeux de piètre qualité. Allez, cette fois je vous laisse. À très vite.